C-I.
Une radio, une appli, connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 5h.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Ma France, par ici les économies. Notre objectif chaque semaine, vous redonner du pouvoir d'achat. Alors aujourd'hui, on va parler de nos logements. Comment entretenir sa maison sans se ruiner et sans s'intoxiquer? Vous l'avez compris, on va parler ménage et on va tout vous dire avec notre invitée. Bonjour Inès Moreau.
Bonjour Valère.
Vous êtes créatrice du compte Instagram Les Petits Gestes et vous êtes aussi autrice. Je vous propose déjà de répondre à une première question qu'une auditrice nous a envoyée.
Bonjour, je m'appelle Linda et j'habite dans le sud de la France. J'ai entendu dire que certains produits ménagers industriels qu'on pouvait trouver en grande distribution pouvaient être dangereux pour la santé. Du coup, je me demande si c'est bien vrai. Merci.
Inès Moreau, première question. Donc, est-ce qu'on trouve vraiment des produits pour entretenir sa maison dans le commerce qui sont carrément dangereux pour la santé ?
Alors, on peut trouver un peu de tout dans les produits industriels. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, ces produits sont composés à 80% d'eau. Donc déjà, ce qu'on paye en principalement, c'est de l'eau. Mais ils ont aussi des agents chimiques, des parfums artificiels, quelquefois des perturbateurs endocriniens. Et il y a aussi beaucoup de marketing derrière. Donc voilà, on nous pousse à acheter parfois plein de produits pour différents usages, alors que il existe en fait quelques produits très basiques avec lesquels on peut tout faire.
Et on va faire des économies. Mais Inès, c'est vrai, donc c'est ce que je comprends en creux, c'est que parfois c'est des gadgets, parfois c'est carrément un peu dangereux en fait. C'est pas facile de s'y retrouver non plus. Comment vous faites-vous, tiens, par exemple ?
Eh ben, on peut se fier à certains labels de confiance. Je pense notamment à l'écolabel européen, je pense à Ecocert, je pense à Nature et Progrès. Donc ça, ce sont des labels. Voilà. On peut aussi se fier à des marques qui existent dans les grandes surfaces, dans le commerce classique, qu'on peut avoir confiance les yeux fermés, qui sont efficaces, qui sont respectueuses de l'environnement et de la santé. Je pense à la compagnie du bicarbonate, à la droguerie écologique, l'Arbre Vert ou Briochin.
Ça, c'est intéressant si on veut faire attention à la santé. On va voir comment à la fois se protéger, mais aussi préserver notre pouvoir d'achat. Je pensais aussi aux promesses. Ça va très loin parfois. 99,99% des bactéries. Il faut espérer, pas tomber sur les 0,01. Ce serait dommage. 100% air frais, méga puissant, méga power. C'est quoi? C'est des attrape-nigauds tout ça ou...
C'est un peu du marketing qui est basé sur la peur, en fait. Je pense qu'en réalité, on n'a pas besoin d'avoir un intérieur stérile. Le meilleur conseil, c'est d'aérer son appartement 10 à 15 minutes par jour. Déjà, ça suffit pour renouveler l'air, éliminer les polluants. Et en fait, une chose très importante à se rappeler, c'est que le propre n'a pas d'odeur. Donc, les annonces comme air pur, air frais, etc., ça n'existe pas. Le frais n'a pas besoin de sentir quelque chose pour être propre. Donc, non, on se fie pas du tout à ça.
Ça, c'est pas mal. Le propre n'a pas d'odeur. Ça nous rassure, mais en fait, c'est des produits chimiques, souvent, qui nous font pas vraiment du bien, en vérité. Voilà, voire carrément du mal. Il faut pas non plus, s'alarmer. C'est-à-dire, tout ça, c'est un petit peu de danger. Mais il y a aussi un moyen de lutter contre, et c'est intéressant, vous venez de nous le dire. Aérer. Alors ça, c'est tout bête. Pour le coup, c'est gratuit. Moi, ça me va bien quand c'est gratuit, parce qu'on est là pour le pouvoir d'achat. Et ouvrir, alors oui, 10-15 minutes, même idéalement, une fois le matin, une fois le soir. Et là, déjà, on va purifier l'air tout simplement de son intérieur. Et c'est une manière d'entretenir son logement.
Exactement. Le mieux, c'est de faire des courants d'air. Si on a la possibilité d'avoir deux fenêtres comme ça, on ouvre, on enlève un petit peu tous les polluants qu'il peut y avoir dans l'air. Et c'est gratuit, comme vous l'avez dit.
Alors, j'ai bien compris qu'il y avait certains labels, vous les avez cités. Ecocert, l'écolabel européen, vous avez
Nature
cité aussi
voilà,
Nature et Progrès. Bon, c'est souvent quand même des produits qui sont un petit peu plus chers. Alors, c'est mieux pour la santé, mais c'est un peu plus cher. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, on en achète moins peut-être?
On n'a pas besoin d'avoir un produit pour chaque usage, ça c'est sûr. Donc, on achète moins. On peut faire soi-même certains produits avec quelques ingrédients de base. Il y a 4 ingrédients, je pense, qu'on peut trouver très très facilement dans le commerce qui ne coûtent pas très cher, qu'on peut aussi acheter en gros, parce que c'est ça aussi, pour faire des économies, on peut éviter d'avoir plein de petits emballages, etc. On achète des au kilo, on achète des bidons de 5 litres, bicarbonate, vinaigre blanc, savon de Marseille et acide citrique, par exemple.
Ça veut dire que faire soi-même ces produits ménagers, c'est selon vous un bon plan et pour le pouvoir d'achat et pour se protéger, en tout cas, pour pas mettre sa santé en danger.
Exactement.
Okay.
Et un volet aussi un petit peu écologique, parce que ce sont des produits naturels.
Bien sûr. Par contre, on peut aussi se dire, bon, ça c'est un peu un gadget de faire soi-même, ça amuse les Parisiens, mais enfin, ça prend du temps, on ne sait pas trop par quel bout s'y prendre. Et puis, enfin voilà, on peut voir un certain nombre de contraintes. C'est accessible, en fait. Tout le monde peut le faire.
Complètement. Okay. C'est accessible à tous. L'argument du temps, il est vrai que si on fait plein de produits. Moi, ce que je prône vraiment, c'est d'en faire très peu, parce qu'ils sont efficaces pour plein d'aspects de la maison. On utilise principalement les mêmes. Et c'est une vraie solution économique et accessible à tous.
On parle de plusieurs centaines d'euros par an de budget sur les produits ménagers. Si on vous suit là et qu'on prend ces quatre produits, donc vous nous avez dit bicarbonate de soude, vinaigre blanc, savon de Marseille...
Acide citrique.
Ok. Partons sur un budget de, mettons, 500 euros par an, je suis sympa, de produits ménagers. On le divise par combien, beaucoup ?
On peut le diviser par 10.
Ah oui.
On peut le diviser par 10, c'est énorme parce qu'on a beaucoup moins d'ingrédients achetés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on achète en grosse quantité. Et pour redonner un petit peu un ordre d'idée, par exemple, le prix du litre du vinaigre blanc, c'est 2 euros.
OK.
Au prix au kilo du bicarbonate, ça va être environ 4 euros.
Alors, vous allez nous dire tout ce qu'on peut faire avec ça et comment on peut entretenir les différentes pièces, les usages, etc. Mais avant, cette question un peu plus, existentielle quasiment. Enfin, je me dis, il faut pas non plus se transformer en apprenti chimiste. Attention, c'est quand même des produits qui ont qui sont des actifs. Il faut faire attention, non?
Ah oui, complètement. Alors, je vous dis pas de prendre une blouse blanche et des lunettes. Non, il n'y a pas forcément besoin. C'est un peu de bon sens. Déjà, on les met hors de portée des enfants. Ça, c'est la première règle de base. Mm-hmm. Ensuite, bien évidemment, on va ne pas ingérer les produits. On va pas respirer les poudres, etc. Le seul vrai conseil que je peux donner, c'est de pas mélanger du bicarbonate et du vinaigre blanc dans un contenant fermé, parce que là, c'est l'explosion assurée.
Ah oui, donc ça c'est quand même hyper important. Donc
voilà.
Pas de bicarbonate et vinaigre et on ferme quoi.
Non.
C'est-à-dire ça crée.
En fait, leur réaction chimique, elle est super intéressante, par exemple pour déboucher des canalisations. Mais si on le met dans un contenant fermé, alors là c'est le volcan et on en met partout, donc vaut mieux pas.
Donc on a ces quatre produits. Là on est en train de diviser par 10 le budget produit d'entretien pour la maison. Donc c'est quand même hyper intéressant. Avec, je le répète rapidement, savon de Marseille, acide citrique, bicarbonate et vinaigre blanc.
Ok. Ouais.
Vous nous suggérez d'acheter en gros pour vraiment faire des économies. On les trouve où ces produits? C'est difficile à trouver?
Non, vraiment pas. Dans les grandes surfaces, de plus en plus on trouve des contenants assez conséquents. On peut les trouver dans les magasins de vrac et dans les magasins bio. Là, ça va être un petit peu plus cher. Mais sinon, on peut aussi aller dans les magasins de bricolage. Okay. Ou alors sur Internet, si on a besoin de se faire livrer.
Ok, c'est hyper clair. Et les recettes, enfin, vous allez nous en donner quelques-unes. Enfin, c'est pas vraiment des recettes, je sais pas comment on dit. En tout cas, les formules, les associations de produits pour que ça marche. On les trouve où alors, mis à part sur votre compte Instagram, bien sûr, ça on l'a bien compris. Et je le rappelle, tiens, donnez-le d'ailleurs le nom de votre compte Instagram.
C'est Les Petits Gestes. Il y a aussi un livre, j'ai écrit un livre avec les recettes les plus faciles à faire. Moi, ce que j'aime, c'est la facilité et les choses qui sont simples.
Allez-y Inès Moreau, alors dites-nous où est-ce qu'on trouve les recettes et pour arriver à faire nous-mêmes.
Et ben justement, sur ce compte Instagram-là, sur ce livre, ou alors aussi sur le site de l'ADEME, c'est un site très très fiable. Moi, j'aime les recettes qui sont sûres, parce qu'il y en existe plein, il y a des blogs, voilà, plein de recettes différentes, mais sur le site de l'ADEME, je pense qu'on ne peut pas trouver plus safe.
Ouais, effectivement. Alors, le site de l'ADEME, c'est l'Agence de la Transition écologique, c'est-à-dire c'est une agence de l'État,
oui.
Et donc c'est hyper sérieux.
Oui.
Vous nous donnez quelques exemples. Alors, moi, j'aimerais faire... le produit vitre, par exemple, c'est vrai que j'en rachète une fois tous les mois et demi, je pense, à peu près.
Ah oui, quand même.
Ouais, ou enfin tous les deux mois, j'en sais rien. Mais enfin, en même temps, il y a pas mal de surface qu'on peut faire avec. C'est vrai que ça dégraisse un petit peu, c'est pratique. Alors, est-ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes du produit vitre?
Tout à fait.
Okay,
vous mélangez à 50% de l'eau et du vinaigre blanc. Et le mieux, pour éviter de laisser des traces sur votre vitre, vous prenez un chiffon microfibre. Et là, voilà, c'est super efficace.
Donc,
et ça coûte
moitié eau,
rien.
Moitié vinaigre blanc.
Oui.
Ça va nous revenir donc à...
quelques centimes.
Ouais, c'est rien du tout, quoi.
Ouais.
Ok, très bien. Et ça revient plutôt à 1,50€, 2€ si on l'achète...
tout fait.
Si on l'achète tout fait, on a effectivement divisé par 10. Pas mal. Est-ce qu'on peut faire aussi son produit pour le lave-vaisselle?
On peut faire sa poudre lave-vaisselle. Alors, on peut les faire aussi sous forme de tablette si on préfère ce format-là. Ouais. Alors là, on va dire qu'il y a un tout petit peu plus d'ingrédients. Mais bon, on met de l'acide citrique, une cuillère à soupe, une cuillère à soupe de cristaux de soude, une cuillère à soupe de bicarbonate et du sel.
Okay.
Qu'on a chez soi.
D'accord. Et le liquide vaisselle, on peut le faire nous-mêmes aussi ?
Alors, le liquide vaisselle, j'ai même encore plus simple. C'est un produit pour la vaisselle, mais qui n'est pas liquide. C'est simplement du savon de Marseille. C'est dégraissant. Vous prenez votre brosse pour la vaisselle ou votre éponge, vous frottez directement sur un bloc de savon de Marseille. Ça vous durera des mois.
Mais est-ce que c'est ça nettoyant, mousse bien ? Parce que moi, je trouve que c'est vachement mieux quand ça mousse bien quand on fait la vaisselle.
C'est comme le propre n'a pas d'odeur. C'est pas la mousse qui lave. C'est les agents qui vont être dans la mousse. Donc, effectivement, ça peut vous changer un petit peu de vos habitudes.
Ça mousse un peu moins,
ça
ouais,
mousse
c'est notre
pas
expérience.
Beaucoup, ouais, okay, mais okay. Ça lave, okay. Ça nettoie et ça dégraisse. Donc pour les poils, c'est super.
Bon, on a compris. Donc pour faire des économies sur son budget entretien, on peut utiliser des produits naturels, basiques hein, finalement. On va en parler avec vous Isabelle, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur votre radio locale ici. Vous habitez dans les Deux-Sèvres, hein, il y a 20
oui,
ans, à la naissance de votre fille, vous avez commencé à fabriquer vous-même vos produits ménagers.
Exactement, c'est l'époque où on commence à regarder d'un peu plus près les étiquettes, à s'interroger sur ce que les produits contiennent et à vouloir faire le mieux pour son enfant. Donc effectivement, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fabriquer mes premiers produits.
Et c'était avant la mode, hein. Il y a un peu une mode qui s'est qui a été créée avec le mouvement zéro déchet, de faire ses produits ménagers soi-même. C'était avant ça. Ça a été compliqué.
Il n'y avait pas Internet non plus. Enfin, il y avait très peu d'infos, donc il y avait quelques bouquins. Et ce qui fait que j'ai beaucoup tâtonné, j'ai beaucoup raté aussi. J'ai trouvé des recettes compliquées, donc voilà, ça fonctionnait pas. Mais ouais, c'était vraiment la mode du zéro déchet à l'époque et voilà, c'est là que j'ai démarré. Après, j'ai essayé de simplifier au fur et à mesure et j'en suis arrivée à réfléchir davantage en termes de besoins maintenant que j'associe à un produit brut. C'est-à-dire si j'ai besoin de nettoyer, je vais prendre du savon noir, de détartrer, je vais prendre du vinaigre ou de l'acide citrique, dégraisser, ça sera les cristaux de soude. Enfin voilà, un produit, un usage par rapport aux besoins. Et on est bien loin finalement du marketing qui nous fait croire qu'il faut un produit différent pour chaque pièce, pour chaque surface, etc.
Oui, je rappelle pour celles et ceux qui nous rejoignent, là, on est en train de parler des produits ménagers, de l'entretien de sa maison et voir comment on peut, sans faire de mal à sa santé, faire surtout des économies. Et du coup, Isabelle, vous qui êtes maintenant rompue à l'exercice de produits ménagers basiques, naturels, etc., vous faites des économies.
Ah, énorme, énorme. Je pense que je suis à quoi, 40 euros par an peut-être, en intégrant également la lessive, qui est quand même un produit cher quand on l'achète en conventionnel. Je fais aussi la lessive à la cendre, donc là c'est vraiment une lessive 0 euros, et zéro déchet aussi, puisqu'on va recycler la cendre de son poêle à bois, et ça fonctionne très bien.
Mais Isabelle, quand on vous entend, on pourrait se dire oui, enfin, c'est un truc un peu d'engager, de militant. Vous nous confirmez que vous vivez comme les autres et que votre maison est aussi propre que celle de votre voisine ou votre voisin. C'est-à-dire que c'est pas à la fois c'est pas compliqué. C'est vrai que c'est naturel et vous faites d'énormes économies.
Alors c'est pas du tout compliqué puisqu'en fait on prend un seul produit, donc il y a pas de recette, des produits à mélanger, etc. C'est super économique, c'est tout aussi efficace. C'est que choisir qui avait lancé une étude à un moment sur les produits faits maison et qui avait montré que l'efficacité était au rendez-vous. Et pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Au niveau, j'ai jamais mis d'eau de Javel dans ma maison depuis 20 ans. On n'est pas malade. Voilà, il y a l'air de la maison me semble plutôt sain. Voilà, je n'y vois vraiment que des avantages.
Ce que vous nous dites finalement, c'est un peu ce que nous disait Inès Moreau tout à l'heure, c'est finalement on nous vend beaucoup de gadgets, donc à la fin on dépense pour des produits à la fois dangereux parfois et souvent bien inutiles et il faut revenir à l'essentiel.
Voilà, c'est ça, c'est pas un retour en arrière, c'est vraiment un retour à davantage de bon sens.
C'est hyper clair et merci d'avoir partagé ce bon sens. En tout cas, Isabelle, j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler, chers auditeurs, auditrices d'ici, qu'on est là pour vous aider hein, avec ce mail pour nous écrire. On attend vos questions, vous pouvez participer à l'émission, nous faire des suggestions, des retours. Mon mail, c'est parici-les-économies@radiofrance.com.
Ici, avec Valère Coréard, par ici les économies.
En version magazine, le samedi, le thème aujourd'hui, comment entretenir son intérieur, sa maison, son logement, sans se ruiner et en préservant notre santé. À mes côtés, Inès Moreau, créatrice du compte Instagram Les Petits Gestes et autrice qui est avec nous. Et puis, Quentin Patefort, directeur de la compagnie du bicarbonate, vient de nous rejoindre. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous.
La compagnie du bicarbonate, quel joli nom. Qu'est-ce qu'on trouve sur votre site internet ?
Alors, on trouve tout un ensemble de produits pour nettoyer la maison de manière écologique et économique. Donc vous allez bien sûr retrouver le bicarbonate, notamment en bicarbonate alimentaire pour tous les usages, mais également toutes les poudres d'entretien comme l'acide citrique pour détartrer ou les cristaux de soude pour dégraisser.
Quentin, on trouve essentiellement sur la compagnie du bicarbonate des produits pour soit des produits bruts, naturels, soit pour les assembler et en faire des produits ménagers, mais pas de produits tout prêts, c'est ça ?
Ah, exactement. On est le leader de la fabrication des ingrédients traditionnels, qu'on appelle également les produits d'antan ou les produits de grand-mère, c'est-à-dire le vinaigre ménager, le savon noir, le bicarbonate, le percarbonate, qu'on peut utiliser en tant que tel, c'est-à-dire par exemple le percarbonate directement pour blanchir le linge. Mais si vous mélangez par exemple du bicarbonate avec des copeaux savon de Marseille, ça va vous fabriquer une lessive. Donc on fait à la fois des produits qui s'utilisent en tant que tels et des quelques recettes qu'on propose sur notre site internet, notamment grâce à notre verre à tout faire qui vous permet de mélanger le vinaigre, le savon noir, le bicarbonate, pour fabriquer tous les produits ménagers, le liquide vaisselle, le nettoyant multisurface, le dégraissant, etc.
C'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais enfin, concrètement, c'est vraiment moins cher que si on achète des produits industriels, tout fait, de les faire soi-même, en passant d'ailleurs par votre site ou par un autre, mais de manière générale, c'est un bon plan budget.
Ouais, tout à fait. L'intérêt, c'est, il est bien sûr écologique parce qu'on utilise des produits qui sont sains, mais il est également économique. On réalise entre 90% et 60% d'économie par rapport à un produit classique. Par exemple, une lessive va vous coûter 40 centimes du lavage. Si vous fabriquez votre lessive avec des copeaux de savon de Marseille et du bicarbonate, ça vous coûte 10 fois moins cher. Ça vous coûte 4 centimes le lavage, donc 90% d'économie.
Ouais, c'est effectivement beaucoup. Et ce que je comprends, c'est que vos clients sont pas forcément uniquement engagés sur la question de l'écologie. C'est très bien, ça participe à la transition écologique, mais on vient aussi chercher du pouvoir d'achat.
Ouais, exactement. Mmh. C'est vraiment l'alliage des deux. Par exemple, avec notre verre à tout faire, qui vous permet de fabriquer les 8 recettes essentielles de l'entretien de la maison, le verre dont je vous parlais tout à l'heure. Avec ce verre à tout faire, sur les 8 recettes, vous allez réaliser entre 60 et 90% d'économie. Donc par exemple, si vous voulez fabriquer votre poudre d'entretien canalisation, vous allez mélanger le bicarbonate avec les cristaux de soude et l'acide citrique, vous allez réaliser 60% d'économie par rapport à la poudre industrielle que vous allez acheter dans le commerce. Vous allez fabriquer votre liquide vaisselle vous-même, etc. Donc le but, c'est de maîtriser la composition, donc c'est-à-dire d'être sûr que les produits sont sains, mais surtout d'aller faire des économies.
Voilà, et ça on peut le faire, on peut trouver de quoi donc détartrer, nettoyer la salle de bain, les vitres et j'en passe, enfin finalement tous les usages de base pour entretenir sa maison. Merci beaucoup Quentin Patefort, directeur de la compagnie du bicarbonate, et votre site c'est compagnie-bicarbonate.com. Inès Moreau, pour pas faire la pub à la compagnie du bicarbonate, même si c'est super, vous nous citez, vous avez un autre site ou
La droguerie écologique par exemple.
Et ben voilà, et c'est Inès Moreau qui est avec nous, vous l'avez compris, elle est créatrice du compte Instagram Les Petits Gestes, elle est autrice aussi. Alors avant de nous quitter, vous allez vous prêter au jeu de notre quiz, c'est le vrai faux, pour finir avec les idées claires sur ce thème de l'entretien de la maison. Première question, le bon plan pour entretenir sa maison sans se ruiner, c'est d'acheter les produits chez un discounter.
Alors là, je dirais faux, parce qu'en fait, souvent, c'est des produits qui vont être très dilués, donc peu efficaces, chimiques, mauvais pour la santé et pour l'environnement.
Les produits ménagers naturels, c'est moins cher, mais c'est un peu moins efficace.
Ouais.
C'est vrai ou faux ?
Ah pardon.
Non, pas de problème.
Ah non.
On poursuit.
Les produits naturels sont tout aussi efficaces, voire même parfois plus.
Ok, vous m'avez fait un peu peur. On peut fabriquer certains produits avec des enfants, c'est vrai ça, nous-mêmes ?
Oui, alors sous surveillance, mais ça peut être une activité ludique et pédagogique, mais voilà, restez à côté d'eux.
Autre question, on ne trouve que des produits pas chers et naturels dans des enseignes spécialisées, donc plus chers.
Non, ça c'est faux. On peut les trouver dans les grandes surfaces, on peut les trouver dans des magasins de bricolage et c'est rarement plus cher.
Alors je vais profiter, il nous reste quelques secondes, moi je me pose une question depuis tout à l'heure. Quel produit je fabrique pour entretenir les éviers, la baignoire, la douche, etc. Vous savez, parce que là on a tous les, je sais pas, les Sanitol, trucs Bang et j'en passe. Qu'est-ce que vous faites vous ?
Alors si c'est juste pour le calcaire, moi je vous conseille d'utiliser un truc que vous avez dans votre frigo, c'est du citron. C'est redoutable pour le calcaire, ça coûte du coup quasiment rien. Sinon, du vinaigre blanc, ça suffit largement.
Voilà, donc vous l'avez compris, avec quelques produits, on peut entretenir sa maison, on aère un peu le matin, le soir, et on fait des économies, mais enfin c'est extraordinaire. On divise par 10 finalement le budget. Inès Moreau, merci beaucoup pour vos éclairages, et j'espère que vous qui nous avez écoutés sur votre radio locale ici, bien, vous y voyez plus clair, et vous l'avez retenu, hein, c'est pas parce que ça sent rien que c'est pas propre. Hein. Ça m'a bien plu
cette histoire-là. Le propre n'a pas d'odeur.
Voilà, pour réécouter toutes les missions, la partager avec vos proches et les faire profiter de cette mine d'infos pratiques au service de votre pouvoir d'achat, c'est sur ici.fr.
Ici.
Ici. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Any way the wind blows
doesn't really matter to me.
To me, Baba just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
So you think you can stop me and spit fire?
écoutez ici.
Comment faire le sourd pour justifier nos délires? Est-ce qu'on est prêt pour les vraies décisions et remplir enfin notre mission? Avec le temps, on s'entend pour écrire le refrain.
Yeah.
les chroniques, les conseils, les bons plans, à tout moment.
Bonjour à tous, bonne année et bienvenue dans Ça tourne, l'émission cinéma qui vous révèle des anecdotes de tournage que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur un film d'époque qui nous plonge en pleine période d'après-guerre. Une histoire vraie, celle de Jan Bojarski, ingénieur polonais qui fait fortune en France en fabriquant de faux billets, des billets tellement parfaits qu'on le surnommait à l'époque le Cézanne de la fausse monnaie.
Comment tu t'appelles ?
Jan Bojarski.
Il paraît que t'as du talent, Jan.
5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets.
Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi.
Bouge pas !
J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte.
À la vôtre, monsieur Bojarski.
Règle numéro 1, ne pas écouler plus d'un billet par boutique.
Ça fera 300 francs. Il est tout neuf ce billet.
Règle numéro 2, rien d'ostentatoire. Règle numéro 3, la discrétion.
Extrait du film L'affaire Bojarski au cinéma mercredi prochain. Et pour nous en révéler les secrets de tournage, le réalisateur Jean-Paul Salomé, le comédien Reda Kateb et le chef opérateur Julien Hirsch sont nos invités. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour.
Et bravo pour ce magnifique travail de reconstitution. On va y revenir. Reda Kateb, on vous voit dans de très nombreux films au cinéma, depuis Le Prophète en 2009. On vous a aussi vu à la télé dans la série En Thérapie. Mais votre dernier film d'époque, c'était justement pendant cette même période de l'occupation, dans le film Django. Vous interprétiez Django Reinhardt en 2017. Est-ce que ça vous plaît déjà de tourner dans un film d'époque ? Est-ce qu'il y a une forme de magie là-dedans ?
Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours envisagé les tournages, les pièces de théâtre, ce qu'on peut faire comme acteur, comme des voyages. Et donc, le voyage dans le temps, c'est très galvanisant. C'est assez, on revient à quelque chose d'enfantin, de se déguiser.
Ouais.
De découvrir des décors, je pense qu'on est tous portés, pas seulement les acteurs, mais toute l'équipe, par la magie de se déplacer dans le temps.
Pour le biopic sur Django Reinhardt, vous aviez appris à jouer de la guitare pendant plus d'un an. Est-ce que pour incarner Bojarski, vous avez appris à fabriquer de faux billets ?
Oui, oui, oui. Alors, ça a demandé un petit peu moins de temps de coaching que le travail de la guitare pour jouer Django Reinhardt. Mais j'ai eu quand même besoin de passer un petit peu de temps à découvrir, à apprivoiser ces machines, à tenter en tout cas d'être juste dans mes gestes. C'était quelque chose qui était très important pour moi, pour que les spectateurs puissent rentrer dans l'histoire, qu'on croit à cet homme dans son atelier, à son travail. C'était aussi le projet du film de Jean-Paul. Déjà au scénario, il y avait beaucoup de scènes de cet homme au travail, dans son atelier avec ses machines. Et avant le tournage, je me disais que oui, si on ne croyait pas à un geste, on ne croirait pas à l'histoire. Donc c'était extrêmement important.
Vous avez beaucoup de répétitions, justement, pour
J'ai passé du temps, oui, à découvrir ces machines, à apprendre les gestes avec des gens de notre équipe décoration du film et aussi un imprimeur qui était avec nous sur le tournage. Et après, tout comme la guitare dans Django, c'est des petites séquences, c'est des petits moments qu'on peut répéter avant de tourner, qu'on peut refaire si ça fonctionne pas. Donc voilà, il y a quand même le travail de faussaire qu'on fait les uns les autres qui intervient.
Oui, j'en parle parce que c'est une partie visuellement très très développée dans le film. Jean-Paul Salomé, c'est vraiment passionnant. Vous avez choisi de montrer avec précision comment on fabriquait de faux billets de banque au siècle dernier. Et ce, notamment grâce à une documentation précise, celle de la police des fraudes, qui a laissé beaucoup de documents d'archives.
Oui, c'est vrai qu'on a eu accès, et heureusement, à pas mal d'archives, de photos, de films aussi, et de témoignages qui nous ont vraiment aidés dans toute cette partie du film, de la reconstitution de son atelier, de ses machines, de la manière dont il inventait cette manière de faire des faux billets. Et ça a été, ça nous a aidé. C'est vrai que il y avait ces images d'archives qu'on voit à un moment dans le film, sans spoiler les choses, mais qui pour moi étaient importantes parce que on voyait la beauté du geste de cet homme, qui était aussi quand même quelque chose de pas de mécanique, mais comme une espèce de chorégraphie, en fait, dans sa manière de se déplacer d'une machine à l'autre. Parce qu'il a imprimé des milliers et des milliers de billets. Donc, en même temps, ça demandait le travail d'orfèvre pour créer le billet. Mais une fois qu'il en était passé au stade de l'impression, et etc., c'était un autre travail qui était très mécanique.
Et puis vous avez reconstitué de vraies machines sur le tournage.
Oui, parce que les machines qu'il a inventées, que Bojarski a inventées à l'époque, et avec lesquelles il avait imprimé ses billets pendant toutes ces années, ont été détruites et ont disparu à jamais. Donc on a dû, nous, à partir des photos et des images d'archives, et même de certains plans qu'il avait faits de ces machines, les recréer à l'identique... Voilà, pour que ce soit le plus crédible possible.
Et pour mettre en image ce magnifique travail de reconstitution, on met en lumière donc aujourd'hui un métier de l'ombre capital dans une équipe de film, celui de chef opérateur. Juste, Reda Kateb.
La lumière et l'ombre, c'est une belle introduction pour ton métier, hein, vraiment.
D'ailleurs, Reda Kateb, comment vous décririez de votre point de vue de comédien la fonction de Julien Hirsch, qui est donc chef opérateur, sur un plateau de tournage?
Déjà, je suis très content que tu sois là, Julien. C'est très rare, finalement, qu'on puisse retrouver les personnes avec qui on a fait le film, qui sont tellement centrales dans la fabrication d'un film à ce stade de la promotion et des discussions qu'on peut avoir autour du film. La personne qui vous éclaire, la personne qui vous filme, la personne qui se situe derrière la caméra, vous avez un lien très intime avec quand vous êtes acteur. Il y a quelque chose où... À un moment, vous êtes vu, parcouru sous toutes les coutures à longueur de journée et de nuit. Et je pense que quand il y a ce lien-là et cette confiance-là, la chorégraphie, justement, peut être plus habitée. La danse qu'on doit mener, la caméra bouge, l'acteur aussi, la personne qui est derrière et qui va être ensuite les yeux du spectateur, c'est le chef opérateur ou la chef opératrice.
Julien Hirsch, donc on va vous donner la parole. Déjà, à quel autre métier pourrait-on comparer celui de chef opérateur?
Je penserais à architecte,
ouais.
Un peu. C'est-à-dire, il y a à la fois une partie technique et à la fois une partie artistique. Mais la différence, quand même, c'est que je suis censé éclairer et pratiquement, en fait, je suis censé éclairer et filmer des séquences qui ont été imaginées et mises en place par un réalisateur. Donc, je suis censé me rentrer dans l'univers de quelqu'un d'autre.
Donc, pour qu'on comprenne bien, vous êtes derrière la caméra, vous êtes ce qu'on appelle au cadre.
Oui.
Et c'est vous qui gérez donc la lumière du film.
Je conçois la lumière, oui, de chaque scène.
Concevoir la lumière d'un film, c'est quelque chose. Comment vous décririez la lumière de l'affaire Bojarski?
Je la décrirais comme une lumière de fiction, c'est-à-dire qui n'est pas documentaire, mais qui s'attache plus à, comment dire, à révéler les émotions plus qu'à montrer à l'époque. Je me suis beaucoup appuyé sur eux et les comédiens et ce qu'ils avaient à faire, en l'occurrence beaucoup le travail manuel qui représente la fabrication des billets, et filmer un métier de manière vraiment dans sa complexité et sa minutie, mais de manière pas ennuyeuse.
Oui, c'était un tournage assez intense. À quoi ressemble, Jean-Paul Salomé, une journée de tournage comme celle de sur l'affaire Bojarski? Est-ce qu'on se lève très tôt en tant que réalisateur? Est-ce qu'on fait des insomnies? Voilà, c'est quoi votre rythme?
On se couche pas beaucoup, on se lève, on se couche tard, on se lève très tôt, mais ça, c'est pas tellement le problème. Voilà, le tournage, c'est une période très particulière de la vie où on est déconnecté de tout le reste. Donc oui, sur ce film, en plus, c'est un film qu'on tournait il y a un an, en plein hiver, il fait très froid, on a vraiment eu des... Moi, je disais toujours à tout le monde, je veux que ce soit un film d'hiver. Ben, j'ai été gâté à l'époque, ça a vraiment été un film d'hiver, on a eu très froid très souvent. Et puis, comme dit Julien, c'était aussi un film d'époque. Ça complique un peu tout, quand même, de faire un film d'époque, parce que vous pouvez pas filmer n'importe quelle rue, n'importe quel endroit.
C'est ce que j'allais
tout
dire.
Est à refaire.
À un moment donné, vous avez tourné à Lyon, mais aussi à Paris, notamment dans une rue
aussi.
À Vichy. Et vous avez tourné notamment dans une rue en contrebas du Moulin Rouge. C'est très reconnaissable. Vous étiez vraiment dans cette rue?
Ah non, mais de toute façon, il y a aucun plan d'extérieur qui soit remis comme ça, tel qu'on l'a tourné dans le film. À l'extérieur de Paris ou de n'importe quelle ville, il n'y a plus rien à voir avec les années 50. Enfin, il y a toujours à effacer, des bricoles, un bout de pavé, des stationnements, un monument, un bâtiment qui n'est pas d'époque. Donc ça, c'est l'intérêt aujourd'hui des effets spéciaux du numérique, c'est de pouvoir travailler à l'infini les images. En fait, je pense que ce qui est réussi, c'est que tous les effets spéciaux ne se voient pas.
Non, c'est vrai.
Et voilà, donc le Moulin Rouge, il n'était pas là quand on a tourné, la Tour Eiffel non plus, enfin il y a plein de trucs comme ça, mais des trains, des figurants, on a rajouté plein de choses dans tous les sens. Tout ça était pour... aider les personnages, aider ce qu'on voulait faire passer. Voilà. Donc, tant pis s'il n'y avait pas un train en plus, ou une voiture, ou un truc, même si des fois je m'énervais là-dessus. Mais finalement, c'était qu'est-ce qu'on filme, quoi? On filme un homme, on filme une femme, on filme des comédiens. Voilà. Donc, on ne voulait pas se laisser vampiriser par la reconstitution.
Ici, avec Ségolène Aluny,
Ça tourne.
Ça tourne avec l'équipe du film L'affaire Bojarski au cinéma mercredi prochain. Le comédien Reda Kateb, le réalisateur Jean-Paul Salomé et le chef opérateur Julien Hirsch sont nos invités. Et c'est l'heure, messieurs, de la séquence souvenirs sensoriels de tournage. Reda Kateb, quel est le son que vous retiendrez de ce tournage?
Ah bah, alors pour le coup, le son de ces machines, de ces machines d'imprimerie qui sont du coup faites de cuir, de bois, de métal, que de matière qu'on n'a plus forcément autour de nous et qu'on n'entend pas forcément dans notre quotidien, et qui à un moment forme une espèce de musique répétitive qui invite presque à une forme de transe dans la répétition de ces rythmes et de ces matières-là.
Est-ce que ça a hanté vos rêves pendant la durée du tournage ?
J'ai envie de vous répondre oui pour vous faire plaisir.
Ah non. Bah non, dites-nous la vérité.
Bah non, alors.
Eh ben voilà, très bien. Julien Hirsch, quelle est l'odeur que vous retenez de ce tournage ?
La principale, je pense que c'est la graisse, l'odeur de la graisse qui enduit tous les engrenages de la presse habillée autour de laquelle on a beaucoup tourné et que j'ai beaucoup filmé sur ce film.
Et comment on décrirait cette odeur de graisse, Reda ?
On peut le rapprocher un peu d'un magasin de vélo, d'entretien de vélo, le caoutchouc en moins, quoi, un peu. Mais c'est vrai que c'est très particulier. Ah, c'est vraiment incomparable. Ouais.
Jean-Paul Salomé, quel accessoire vous a particulièrement marqué sur le tournage de ce film ?
Les accessoires sont ces machines qui ont été recréées. En plus, c'était assez émouvant pour moi, elles ont été recréées par mon fils et qui travaille dans la déco. Hein. Il s'est pas improvisé tout d'un coup comme ça, inventeur de machines. Mais il se trouve qu'il fait partie de l'équipe de décoration de François Dupertuis et qu'il était en charge, il a eu la lourde charge avec deux autres techniciens, de recréer toutes ces machines. Pour moi, la réussite d'une grande partie du film, au-delà des comédiens évidemment, mais venait aussi que ces comédiens puissent interagir avec ces machines, qu'il y ait quelque chose, qu'on sente le travail de cet homme. Mais comme Bojarski les a fait à l'époque, avec son côté Joe trouve tout, ils sont allés sur le bon coin, ils ont trouvé un moteur de vieille machine à coudre, une pompe à vélo,
génial.
Parce que tout ça, c'était Bojarski les a créés comme ça.
Mmh.
Et puis une fraise de dentiste, enfin des tas de trucs, voilà. Et ils ont recréé ça. Et moi, je me souviens du choc quand on est allé dans l'atelier déco, tous les trois, ensemble, découvrir ces machines et ils nous ont montré comment elles allaient fonctionner. Pour le cinéma, évidemment, mais en tout cas, elle fonctionnait suffisamment pour que Reda puisse figurer tout le travail qu'il avait à faire dessus. Donc ça, oui, c'était un grand moment d'émotion à voir ces machines-là.
Julien Hirsch, pour vous, c'est pareil. Vous avez découvert cette histoire et ça vous a passionné. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas fait de film d'époque, justement.
Oui, ça faisait pas mal de temps que je n'avais pas fait de film d'époque. Et je ne connaissais pas du tout ce personnage. J'en avais jamais entendu parler. Et effectivement, c'est un personnage vraiment très, très étonnant. Et dans sa solitude, et dans sa concentration, dans son idée fixe presque. Mmh. Il peut tout à fait faire penser à un artiste, en fait.
Il est décrit comme
Cézanne
de la fausse monnaie.
Comme un artiste, ouais.
Jean-Paul Salomé, avec quoi avez-vous envie que les spectateurs repartent après avoir vu votre film ?
Bah, j'ai envie que les spectateurs découvrent le génie de cet homme qui a eu une vie extraordinaire en essayant de rester un homme ordinaire. C'est-à-dire qu'en même temps, il avait une femme, des enfants, et il a essayé de joindre tous ces univers impossibles. De comment être un artiste en ayant cette vie-là, comment être un hors-la-loi en ayant cette vie-là. De l'extérieur, il ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, et si on soulevait le couvercle de la marmite, alors là, ça bouillait. et c'est ça que je trouvais formidable. C'était ce mélange de calme, de vie très simple. Et en fait, quand on passait de l'autre côté du décor, on s'aperçoit que c'était insensé, quoi. J'aimerais que les gens le ressentent.
Réhabiliter l'histoire.
Et le réhabiliter, parce que c'était vraiment un génie, ce type. Ouais.
L'affaire Bojarski, une passionnante plongée au cœur de l'histoire vraie du Cézanne de la fausse monnaie. Yann Bojarski, incarné avec talent, comme d'habitude, par Reda Kateb à l'écran. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Reda.
Merci de nous avoir invités.
Au casting, on retrouve aussi Sarah Giraudot, Bastien Bouillon, Quentin Dolmer et Pierre Lautin, pour ne citer qu'eux. Merci Jean-Paul Salomé d'être venu dans sa tourne. Et merci Julien Hirsch de nous avoir présenté votre métier de chef opérateur. Bravo pour le boulot magnifique sur ce film.
Merci beaucoup.
Ici.
In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture.
that bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나 never ending forever baby.
And the fact that we can't be together because we come from different sides.
Écoutez ici.
laisser son nom sur mon écran. Je me tape Marilou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts message reçu en quelque de Marilou.
Vous n'avez pas oublié cet énorme succès de l'année 1990, le fameux Marilou de Michel Polnareff, à réécouter sans aucune modération ici.
Ici, dès 6h,
François-Xavier Canova,
Valentine Letès.
De très bonne heure, vous êtes là et nous aussi. Bienvenue sur votre radio ici, présentation de votre équipe du dimanche. Nous avons Stéphane à la rédaction en chef, Basile à la technique, Florentin qui vous accueille au standard ce matin. Et pour l'actualité, c'est Valentine Letès. Bonjour Valentine.
Bonjour François-Xavier, bonjour à tous.
Dans l'actu, les vins, champagnes et fromages français à nouveau menacés de taxes à la douane américaine.
Donald Trump ressort son arme favorite pour forcer les Européens à se séparer du Groenland.
Explication dans un instant.
Ici.
ECI.
Une radio, une appli connectée à notre région.
Dimanche 18 janvier, merci de nous rester fidèles. Bienvenue, il est 6h.